Les gens de mon pays croient au mauvais sort. Ils ont raison, j'ai le mauvais sort, dit-elle. Je me dois interdire de plus rien entreprendre et de me fier à rien, pas même à Dieu. Amour, charité, espérance, elle avait épuisé toutes les réserves de vertu qu'elle possédait et la foi du même coup se retirait d'elle. Elle avait subi pendant sa maladie de telles tortures et si fort éprouvait l'impression d'agonie que de se sentir vivante, de respirer sans peine, de s'alimenter, de poser son regard sur des murs, des meubles, des visages, lui semblait surprenant et lui procurait les seules émotions dont son âme aux trois quarts détruite fut encore capable. À mesure que se déroulait sa lente convalescence et qu'elle retrouvait sa légendaire beauté, la reine Clémence se mit à développer des goûts de femme âgée et capricieuse. On eût dit que sous cette apparence admirable, sous ses cheveux d'or, ce visage de retable, cette poitrine noble, ses membres fuselés qui reprenaient de jour en jour leur séduction, 40 années d'un coup s'étaient écoulées. Dans un corps somptueux, une vieille veuve réclamait à la vie ses dernières joies. Elle les réclamerait pendant 11 ans. Frugale jusque-là, autant par religion que par indifférence, la reine montra vite d'étranges exigences pour des nourritures rares et dispendieuses. Comblée par Louis X de joyaux qu'elle avait dédaignés en les recevant, elle s'animait maintenant devant ses coffres à bijoux, se passionnait à dénombrer les pierres, à en calculer la valeur, à en apprécier la taille ou l'eau. Elle décidait soudain de modifier les montures et convoquait pour d'interminables entretiens ses orfèvres. Elle passait aussi de longues heures avec les lingères, faisant acheter au plus cher des étoffes d'Orient, commandait d'excessives quantités de parfums. Si, pour sortir de ses appartements, elle revêtait la blanche tenue des veuves, dans sa chambre, ses familiers étaient surpris, gênés, de la voir levée près de la cheminée, sous des voiles d'une excessive transparence. Sa générosité de naguère ne survivait que sous la forme altérée de libéralités absurdes. Les marchands s'étaient donné le mot et savaient qu'aucun prix ne serait discuté. L'avidité gagnait le personnel. Oh, certes, la reine Clémence était bien servie. On se disputait aux cuisines la faveur de lui apporter son plat, car pour un dessert ornementé, pour un lait de noisette, pour une eau d'or récemment découverte et où le romarin et la girofle avaient macéré à suffisance dans un jus de grenade, la reine soudain ouvrait sa main pleine de pièces. Elle voulut bientôt entendre chanter et que contes, lais et romans fussent récités par bouches agréables. Son regard refroidi ne voulait plus se poser que sur de jeunes visages. Un ménestrel, bien pris de taille et de voix chaleureuse qui l'avait distraite 1 heure et dont les yeux s'étaient troublés en entrevoyant son corps sous les voiles de Chypre, recevait de quoi festoyer aux tavernes pendant tout un mois. Bouville s'alarmait de ses profusions, mais il n'avait pu se défendre d'en être lui-même bénéficiaire. Le 1er janvier, qui était le jour des compliments et des cadeaux, bien que l'année officielle ne débutât qu'à Pâques, la reine Clémence remit à Bouville un sac brodé contenant 300 livres d'or. L'ancien chambellan s'écria « Non, madame, de grâce, je ne l'ai point mérité !» Mais on ne peut refuser le présent d'une reine, même si l'on sait que cette reine se ruine. Dans cette même journée du 1er janvier, Bouville reçut la visite de messer Ptolemy. Le banquier trouva l'ancien chambellan étonnamment maigri et blanchi. Bouville flottait dans ses vêtements. Ses joues s'affaissaient de chaque côté du visage. Son regard était inquiet et son attention en même temps paraissait défaillante. « Cet homme-là, pensa Ptolemy, est rongé d'une maladie secrète, et je ne serais point surpris qu'il fût saisi avant peu du mal de mort. Il faut me hâter d'arranger les affaires de Guccio. » Ptolemy connaissait les usages. À l'occasion de l'an 9, il portait une pièce d'étoffe à l'intention de Madame Bouville. « Pour la remercier, dit-il, de tout le soin qu'elle a pris de cette damoiselle qui donna un fils à mon neveu. » Bouville voulut aussi refuser ce présent-là. « Mais si, insista Ptolemy. Je voudrais d'ailleurs vous entretenir un peu de cette affaire. Mon neveu va rentrer d'Avignon, où notre Saint-Père le Pape. » Ptolemy se signa. « L'a retenu jusqu'ici pour travailler au compte de sa cassette. Elle vient chercher sa jeune épouse et son enfant. » Bouville sentit tout son sang lui refluer au cœur. « Un instant, messer, un instant !» dit-il. « J'ai là un messager qui m'attend et auquel je dois confier une réponse urgente. Faites-moi la grâce de patienter. » Et il disparut, la pièce d'étoffe sous le bras, prendre conseil de sa femme. « Le mari revient !» dit-il. « Quel mari ?» demanda Madame de Bouville. « le mari de la nourrice.
Mais elle n'est pas mariée.
Il faut croire, Ptolémée est là. Tiens, il t'a apporté ceci.
Que veut-il?
Que la fille sorte du couvent.
Quand?
Je ne sais pas encore, bientôt.
Alors attends de savoir, et ne promets rien.
Bouville reparut devant son visiteur.
Vous disiez donc, messer Ptolémée?
Je vous disais que mon neveu Guccio arrive pour faire sortir du couvent où vous avez eu la bonté de leur trouver refuge sa femme et son enfant. À présent, ils n'ont plus rien à craindre. Guccio est porteur d'une recommandation du Saint-Père et il s'établira, je crois, en Avignon, du moins pour un temps. J'aurais assez aimé pourtant les garder près de moi. Savez-vous que je n'ai pas encore vu ce petit neveu qui m'est né? J'étais sur les chemins à visiter mes comptoirs et n'ai su la nouvelle que par une lettre toute joyeuse de la jeune mère. Avant-hier, aussitôt rentrée, j'ai voulu l'aller voir, mais au couvent des Clarisses, je me suis heurté à porte de bois.
« C'est que la règle est fort sévère, aux Clarisses, » dit Bouville. « Et puis nous avions donné sur votre demande consigne étroite. »
Il n'est advenu nulle chose mauvaise.
« Mais non, messer, rien que je sache. » « Je vous en eusse aussitôt averti, » répondit Bouville, qui se sentait au grill. « Quand donc votre neveu arrive-t-il ? »
« Je l'attends sous deux ou trois jours. » Bouville le regarda d'un œil effaré.